divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver après une interruption du mois de décembre pour des raisons qui nous sont complètement étrangères. Nous recevons aujourd'hui le grand maître de la Grande Loge de France, Pierre-Marie Adam. Bonjour Pierre-Marie.
Bonjour Perry.
Puisque nous sommes au mois de janvier, il est encore temps de peut-être de prononcer quelques vœux. Vous pouvez peut-être commencer cette émission par...
Oui, merci de me donner cette occasion. Je m'adresserai à la fois aux frères et aux sœurs, bien entendu, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent, pour leur souhaiter une belle et une heureuse année à titre personnel, familial, professionnel, et puis plus collectivement pour souhaiter que la société dans laquelle nous vivons connaisse une année 2020 moins crispée, moins belliqueuse, moins violente même parfois, et qu'elle soit empreinte de plus de bienveillance, de plus d'harmonie, où le vivre ensemble ne soit pas ou ne soit plus un simple face-à-face d'opposition, mais une réelle cohabitation douce dans un projet partagé par l'ensemble des citoyens, que le bien de chacun contribue au bien-être de tous.
Bon, mais merci de ces vœux. Donc, c'est des vœux qui nous incitent à un travail pour que tout ceci aboutisse. Alors, peut-être que les vœux, ça peut être aussi du domaine de l'utopie, du rêve. Revenons à la réalité. Quel est le rôle de la Grande Loge de France, son positionnement, parce que vous dites assez souvent que nous sommes une obédience à la fois humaniste, spiritualiste et de tradition. Alors c'est des jolis mots encore, un peu comme vous voulez, si je peux me permettre, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, on ne refusera pas le beau, le bien et le vrai, hein, comme disaient les Grecs. En effet, la Grande Loge de France se définit. Alors, la Grande Loge de France, je rappelle, c'est 32 à 34 000 frères, c'est 930 loges. Elle se veut la référence d'une franc-maçonnerie de tradition, de spiritualité, d'humanisme. Ce qui veut dire que les frères de la Grande Loge de France se rattachent à une tradition venue des temps lointains et d'un héritage reconnu et qui a du contenu. Nous sommes, comme disait celui-là, les héritiers de Jérusalem, d'Athènes et de Rome. Nous sommes les héritiers, en tout cas en pensée, des constructeurs de cathédrales, d'où l'importance que représentait pour moi Notre-Dame de Paris, et pour beaucoup de Français d'ailleurs, et puis les héritiers du siècle des Lumières. Et donc, à ce point de vue, nous ne renions en rien la tradition qui nous a conduits, qui nous a créés. Et puis, cette tradition, c'est aussi la spiritualité, parce que la Grande Loge de France, la franc-maçonnerie en général, ce n'est pas un club-service, c'est une obédience. Et c'est une obédience qui fonctionne selon des règles, des principes, des valeurs et un rite. Et donc ça, c'est la partie à la fois intellectuelle, spirituelle, philosophique de la démarche. Mais pour autant, nous ne sommes pas que spiritualistes, nous sommes aussi humanistes, vous avez raison.
Mais humaniste, pour vous, comment vous le définissez? Est-ce que c'est l'humanisme de Pic de la Mirandole, enfin de la Renaissance, ou un humanisme plus récent, contemporain?
Si on veut l'attacher à une tradition philosophique, c'est vrai que les philosophes du XVIIIe, le siècle des Lumières, d'une part, et Pic de la Mirandole, entre autres, puisqu'on rappelle que c'est celui qui dit « Dieu nous a créés avec toutes nos potentialités, mais aucune obligation, et donc nous sommes capables de nous développer à titre personnel ». Alors, humaniste, bien sûr, dans ce sens-là, mais humaniste aussi dans le sens que nous ne sommes pas que des êtres déconnectés de la réalité ou des penseurs éthérés, nous sommes aussi des gens qui sont des individus concernés, des citoyens engagés et qui doivent s'intéresser au monde qui les entoure pour essayer de faire advenir mieux la vie entre les gens et améliorer la vie quotidienne.
Alors c'est à la fois l'humanisme, donc l'homme est capable de progrès, de s'améliorer. C'est aussi un homme qui est autonome, ça c'était repris du siècle des Lumières. Oui. Mais l'humanisme d'aujourd'hui, donc vous y arrivez petit à petit, mais j'ai envie de vous demander, mais quel est le lien entre une démarche maçonnique et le monde qui nous entoure?
Bien, quand vous êtes au milieu des gens, vous avez plusieurs manières de vous comporter. Et si vous avez nourri votre manière d'être, votre façon d'être, votre manière de penser, vos réactions ou vos réflexions sur qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que nous attendons de la vie, quel est le sens que chacun doit donner à son existence. Et si nous partons de là en disant nous sommes ici aussi pour nous intéresser aux autres, pour faire que les autres puissent aussi réaliser ce qu'ils attendent de leur vie, donner du sens à leur existence, essayer de trouver le but qui fait qu'ils sont sur Terre, pas seulement comme consommateurs, mais aussi comme êtres humains. Lorsque nous avons amélioré notre réflexion sur ce sujet, alors nous partons au dehors, mais pas avec des discours, avec notre manière de nous comporter, avec l'exemple que nous pouvons donner, avec la façon d'être avec les autres, de façon que ce que nous avons appris dans notre démarche interne, nous puissions le traduire dans notre comportement quotidien. Ce ne sont pas de grandes envolées littéraires ou de grands discours, ce sont des actes de tous les jours qui permettent d'améliorer le sens de la vie et le quotidien des autres.
Alors ça peut se préparer dans les loges, et les loges sont libres. Elles peuvent étudier les sujets qu'elles entendent, c'est alors chacun de leurs présidents d'en décider. Mais au niveau de l'obédience, il y a des commissions qui traitent de ces sujets pour inciter précisément les loges à s'emparer de ces
bien
sujets.
Bien sûr. Et une fois, parce que nous ne possédons pas la science infuse, parce que nous ne pouvons pas tout savoir sur tout, et que par ailleurs, le travail en loge, c'est d'abord du travail sur nous-mêmes, c'est d'abord du symbolisme et de l'initiatique. Et donc, là-dessus, c'est réservé au travail en loge. Mais lorsque nous sortons en disant nous devons travailler à l'amélioration du monde, ça concerne un certain nombre de sujets. Et ça concerne des sujets qui sont à la fois dans le domaine de la technique, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'humain, dans le domaine des techniques modernes comme les algorithmes ou l'intelligence artificielle. Tous sujets sur lesquels nous ne sommes pas forcément qualifiés. Et le travail et l'intérêt de ces commissions, éthique, droits de l'homme, le monde qui nous entoure, puisqu'il est appelé ainsi, ou d'autres commissions comme celle-là, rassemblent d'abord des francs-maçons qui ont pour certains un peu de compétences, fait venir des sachants qui, eux, vont pouvoir nous qualifier sur un certain nombre de sujets. Quand on entend des gens qui parlent de l'intelligence artificielle, de l'algorithme, ou des techniques de bioéthique ou de fin de vie, nous nous nourrissons de ces réflexions. Et ensuite, nous arrivons à les transmettre et à les transférer dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui fait que nous ne sommes pas arrimés à la tradition pour juste penser, nous sommes ancrés dans la vie quotidienne pour agir.
C'est ainsi que l'obédience, en tout cas des représentants de notre obédience, ont été reçus à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale sur les sujets de la future loi de bioéthique.
C'est ça. La future loi de bioéthique, c'était à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a aussi été interrogés, les grands maîtres ont été interrogés sur l'évolution ou pas de la loi 1905 et la question de la laïcité. Oui.
Alors, vous avez parlé de tradition tout à l'heure et vous avez embelli ou encore plus mis de matière à un pôle tradition. Tradition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça réunit quelques obédiences? Est-ce que ça les réunit? Qu'en est-il exactement?
Dans les relations que nous avons avec les autres obédiences, et vous en parlerez, j'imagine, dans quelques minutes, nous avons voulu aussi rassembler autour de la Grande Loge de France, puisque j'ai dit pôle de référence, rassembler autour de la Grande Loge de France les obédiences qui sont sur les mêmes critères, je vais dire de régularité, c'est-à-dire le respect du symbolisme, le respect du rituel, le respect des travaux en loge, et le meilleur exemple et la meilleure obédience qui, de ce point de vue, nous rejoint, c'est donc la grande loge de l'Alliance maçonnique française, avec lesquelles nous constituons aujourd'hui un pôle tradition. Le pôle tradition, c'est pas simplement un rassemblement de deux obédiences, c'est le fait que ces obédiences se sont engagées à travailler ensemble, mais de manière rituelle, c'est-à-dire dans des tenues qui nous rassemblent, sur lesquelles nous évoquerons ces questions de symbolisme et d'initiatique. Donc c'est en interne, entre les frères de ces deux obédiences. À terme, les obédiences qui souhaitent nous rejoindre et qui sont dans ce même courant de régularité seront les bienvenues et nous essaierons d'élargir, mais toujours dans ce domaine de symbolisme et d'initiatique.
Donc des obédiences qui partagent tous les points de vue, point de vue, les valeurs que vous avez définies tout à l'heure.
C'est ça, et qui sont aussi, alors on va peut-être regretter de le dire, mais qui sont aussi monogenres. C'est-à-dire il n'y a pas dans nos tenues de mixité et dans le pôle tradition évidemment non plus.
Bon, ça c'est un fait. Ça fait partie de nos règlements et il n'y a que nos adhérents qui peuvent modifier nos règlements les sœurs et frères des autres obédiences.
Voilà. Mais comme j'ai dit, la question n'est pas à l'ordre du jour et donc...
Alors, il y a quand même, évidemment, vous disiez la Grande Loge de France, donc pôle central, donc ça veut dire que nous avons des relations avec d'autres obédiences. Oui, de quelle nature, de quel type, comment
nous avons
démontré ce pôle central.
Voilà, pris le parti de parler à toutes les obédiences, ou d'avoir avec les autres obédiences des moments de dialogue. Alors, vous êtes bien placé, Perry, pour savoir que la première expérimentation, si je puis dire, a été celle des dialogues maçonniques engagés avec le Grand Orient de France. Nous avons là-dessus fait un premier colloque. Vous êtes aussi chargé de nouer les liens avec la Grande Loge nationale française, que sur les entretiens de Pic de la Mirandole, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sur lesquels nous aurons d'autres débats, d'autres sujets. Les autres obédiences que nous souhaiterons, la Grande Loge féminine par exemple, pourquoi pas, bien sûr. Là, on n'est pas dans le même domaine, on est sur quelque chose qui touche le public, et qui donc permet d'exprimer nos spécificités, d'abord nos valeurs communes, mais aussi nos spécificités, pour que chacun comprenne bien qu'on a des choses en commun, on a des principes, on a des vérités qui nous sont communes, et que nous les exprimons, ou que nous les vivons de manière spécifique et particulière.
Donc ça donne l'occasion au public de savoir sur un même sujet comment les frères des obédiences les traitent.
Et peut-être à la limite ce qu'on va pouvoir imaginer entre ce qu'on appelle le sociétal et ce qu'on appelle le spirituel ou le symbolique. Encore que, on a eu cette surprise dans les dialogues de s'apercevoir que nous n'étions pas si loin les uns des autres.
Le sujet était quelle humanité travaille le franc-maçon.
Voilà. Et on a bien vu que nous travaillons en tout cas dans la même direction, peut-être avec nos spécificités et nos particularités, mais dans la même direction, toujours faire un homme meilleur dans un monde meilleur.
Il veut dire que, bon, soyons optimistes sur les sujets de l'humanisme ou de l'humain, nous sommes assez voisins les uns et les autres.
C'est ça.
Alors, un autre sujet qui vous est cher, c'est la jeunesse.
Oui.
Pourquoi s'intéresser à la jeunesse ? Alors d'abord, on dit que les francs-maçons sont des vieilles personnes.
D'expérience, on va dire.
Bon, peut-être que quelques-uns alourdissent cette moyenne, mais c'est pas si vrai que ça. Il y a une grande, si j'ose dire, population en termes statistiques de jeunes.
Mais lorsqu'on est jeune, on est pétri d'idéal, et donc on a envie de faire quelque chose de sa vie, de donner de son temps pour s'améliorer, améliorer son environnement. Et il se trouve que nous avons parmi nous des frères jeunes. Alors, jeunes, ça veut dire entre 25 et 35 ans. Et ces jeunes sont venus nous proposer d'être nos intermédiaires, nos interlocuteurs, les interlocuteurs de la Grande Loge à la moyenne d'âge respectable, à des profanes qui, eux, sont de leur génération, la génération Y, les milléniales, comme on dit aujourd'hui. Et sans changer quoi que ce soit à la tradition, parce que nous sommes attachés à la tradition que j'ai définie tout à l'heure, ils disent, vous n'utilisez pas les mêmes médias, vous n'utilisez pas les mêmes vecteurs, le même langage, la même façon de vous exprimer ou les mêmes habitudes. Nous, oui. Et nous sommes capables, parce que nous sommes à l'interface, de parler de la franc-maçonnerie et de la Grande Loge de France à des jeunes qui sont dans notre tranche d'âge. Et ils nous ont sollicité pour rejoindre un peu cette démarche, et je suis très heureux de pouvoir compter sur ce groupe qu'ils ont appelé le Cercle Télémaque, qui est en voie de constitution, en tout cas de mise en marche, et qui va, comme ça, nous faire l'intermédiaire.
Ben, je prends la balle au bon, si j'ose dire, et peut-être qu'on va organiser notre prochaine émission sur ce sujet. La prochaine émission aura lieu le 16 février. On va essayer donc de demander à ces jeunes de parler aux jeunes.
Voilà, de parler aux jeunes et de dire en quoi même leur langage, leur manière de s'exprimer ou de vivre, différente parce que c'est leur génération, elle se rattache à notre propre tradition.
Merci beaucoup Pierre-Marie Adam, grand maître de la Grande Loge de France. Je voudrais utiliser ces quelques minutes qui nous restent pour vous parler de la revue de la Grande Loge de France, Point de vue initiatique, dont le dernier numéro parle des nouvelles spiritualités. Alors, ce propos, le directeur de la rédaction, Robert de Rosa, dit « Mais comment peut-on appeler ça nouvelle, la spiritualité ? Évidemment, elle est aussi ancienne que l'homme. C'est l'un des signes de son humanité, dit-il. C'est un signe positif, élévateur, lumineux, contre d'autres plus sombres, qui témoignent de son inhumanité. » Alors, dans ce numéro, il y a des avis pourquoi nouveau ? Pourquoi est-ce que la maçonnerie ne serait pas un substitut de la religion ? La réponse est évidemment non. Et la spiritualité de la franc-maçonnerie a-t-elle un sens? Et puis, il y a aussi un article sur les dérives de la spiritualité. Et puis, à chaque fois, il y a un invité extérieur. Nous avons invité Catherine Larrère, qui est déjà venue faire quelques conférences à la Grande Loge de France, et qui pose la question, l'écologie peut-elle être spirituelle? Et sa réponse est oui. Et la démonstration est assez intéressante. Donc, je vous invite à venir sur le site de la Grande Loge de France, www.gldf.org. Vous pouvez acheter cette revue et vous y abonner. Je voudrais juste citer peut-être en résumé une petite phrase de Teilhard de Chardin qui pourrait résumer un petit peu ce que nous nous sommes dit. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Eh bien, espérons que ceci facilitera une réelle fraternité pour le monde qui nous entoure. C'est en tout cas le vœu que je formule. Merci à toutes. Rendez-vous le 16 février. Merci à Pierre Monteil à la technique. Merci à Dany Journeau, notre fidèle réalisatrice. Bon dimanche à tout le monde.
Et merci à Perry d'avoir cité Teilhard de Chardin, dont il sait que je suis un fervent admirateur et lecteur.
Je ne l'ai pas fait exprès.